France Info.
Complotisme, désinformation, rumeurs, calomnies, emballement médiatique, avec la Fondation Descartes, les infox de l'histoire.
Patrice Gélinet.
Mythe ou réalité, les complots maçonniques.
Ce temple des loges a été découvert par nos troupes à Paris. Les francs-maçons internationaux s'entourent de symboliques enfantines et de broutilles idiotes. Derrière ce camouflage se cachaient de grosses transactions politiques et économiques qui permettaient à une clique de plutocrates finançant le trafic d'armes d'engendrer d'énormes gains en apportant la misère à des peuples entiers.
Le 14 juin 1940, le jour même où elle entrait dans Paris, l'armée allemande occupait et réquisitionnait le siège du Grand Orient de France rue Cadet. Comme Hitler l'avait fait en Allemagne en arrivant au pouvoir, il fallait que disparaisse aussi en France cette société secrète dont le pouvoir était tel, disait-on, qu'on l'accusait d'avoir entraîné le monde dans la Deuxième Guerre mondiale. C'était un des nombreux complots dont on a soupçonné la franc-maçonnerie depuis sa naissance 200 ans plus tôt. Venue d'Angleterre en France au milieu du XVIIIe siècle, elle y avait apporté ses idéaux, ses rites étranges et son goût du secret qui ont alimenté tous les soupçons, tous les fantasmes et servi de prétexte à la persécution dont la franc-maçonnerie a été victime pendant l'occupation. Dès le 13 août 1940 à Vichy, Pétain décidait de dissoudre les loges maçonniques et 2 mois plus tard, en octobre, les objets confisqués par les Allemands rue Cadet étaient exposés à Paris.
Au Petit Palais vient de s'ouvrir l'exposition maçonnique qui jette la lumière sur la curieuse et mystérieuse mise en scène établie par les francs-maçons, qui prétendaient ainsi à impressionner leurs adeptes. On ne peut que s'étonner et sourire aussi de constater que ces rites d'un autre âge aient pu, à notre époque, faire l'objet de telles crédulités. Combien de solennels pontifs de la politique restèrent dans cette cellule appelée chambre de réflexion et parée d'ornements macabres ? Combien revêtirent le tablier maçonnique ou passèrent à leur cou ces sautoirs brodés de signes cabalistiques, symboles de leur puissance secrète, aujourd'hui anéantie.
Et c'était l'ouverture d'une exposition anti-maçonnique en octobre 1940, au tout début de l'occupation. Roger Daché, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de la franc-maçonnerie et président de l'Institut maçonnique de France. Alors, dans un livre coécrit avec Alain Boer, Nouvelle histoire des francs-maçons en France, l'occupation, dites-vous, a été sans doute la période la plus sombre de la franc-maçonnerie, à l'époque où elle était accusée par les Allemands et par le régime de Vichy d'avoir entraîné la France dans la guerre, un des nombreux complots dont on l'a soupçonné tout au long de son histoire, pendant plus de 200 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer la méfiance, l'hostilité et les théories du complot dont elle a fait l'objet pendant si longtemps ?
Je crois que la raison fondamentale, c'est que la maçonnerie n'est pas une société secrète, puisque son existence a toujours été connue, et même l'identité de ses membres les plus éminents a toujours été publique. Mais c'est une société à secret, au pluriel. C'est-à-dire qu'elle a des secrets qui sont en quelque sorte fonctionnels, qui permettent à son organisation de vivre en interne. En 1744, à Paris, on publie pour la première fois un petit ouvrage qui d'ailleurs rencontre un très grand succès public et qui s'appelle « Le secret des francs-maçons ». C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que tous les secrets des francs-maçons sont en vente dans les bonnes librairies depuis 280 ans. Et ce petit livre, qui donc a un grand succès, commençait par quelques vers de Mirliton dans le style du XVIIIe siècle, qui disait ceci. « Pour le public, un franc-maçon sera toujours un vrai problème qu'il ne saurait résoudre à fond qu'en devenant maçon lui-même. » Et au fond, le complotisme, c'est un peu le fruit de cette attente de devenir franc-maçon, souvent déçu ou qu'on n'ose pas obtenir. Alors on fantasme, on imagine. Et de cela naît le complot maçonnique.
Et dès l'apparition donc de la franc-maçonnerie en France, c'était au milieu, et même en 1738.
Vers 1725,
Et elle est attaquée, et d'abord par la religion, en tout cas par l'Église catholique, qui se met fidèle lorsque le pape Clément XII excommunie les francs-maçons en 1738, au moment même d'ailleurs où elle vient d'apparaître en France.
Oui, alors la franc-maçonnerie moderne est née dans les îles britanniques à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, et elle arrive qu'en France, à l'initiative d'ailleurs de Britanniques exilés, à Paris, vers 1725. Et alors, elle a toutes les raisons d'inquiéter les pouvoirs publics. Les deux raisons majeures, c'est d'abord qu'elle est constituée principalement de sujets britanniques, en plus des jacobites, c'est-à-dire des gens qui sont révoltés contre la nouvelle monarchie hanovrienne qui s'est établie en 1714. Donc le pouvoir royal dit, il vient de faire des complots politiques sur notre territoire. Mais aussi, parce qu'elle est née dans un pays, l'Angleterre, qui est un pays protestant et de liberté religieuse. Or, à cette époque en France, non seulement c'est l'absolutisme royal, mais c'est aussi un régime de révocation. C'est-à-dire qu'en 1685, par l'édit de Fontainebleau, on a révoqué l'édit de Nantes, il n'y a donc pas de liberté religieuse. Donc pour au moins ces deux raisons-là, la franc-maçonnerie peut être suspecte.
Alors qu'elle ne l'est pas dans les pays d'abord où elle est née, c'est l'Angleterre, à plus forte raison les États-Unis, où elle apparaît très vite, avant même d'ailleurs l'indépendance des États-Unis, avec le premier président, George Washington, avec tous les pères fondateurs des États-Unis, avec même Lafayette qui vient avec l'armée française aider les Américains. Donc effectivement, là, elle n'a jamais eu trop de problèmes dans les pays anglo-saxons, en fait, Roger Daché.
Dans les pays anglo-saxons, dès l'origine, et jusqu'à nos jours d'ailleurs, la franc-maçonnerie a rarement fait l'objet de critiques, tout simplement parce qu'elle est totalement intégrée à l'establishment, même si ça fait sourire, on peut mentionner qu'aujourd'hui encore, le grand maître de la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui se présente comme la grande loge mère de toute la franc-maçonnerie mondiale, c'est le duc de Kent, qui est le cousin de la reine Elisabeth II. Donc elle est totalement intégrée à l'establishment, vous avez mentionné Washington, et la plupart des 13 des signataires de la déclaration d'indépendance sont des francs-maçons. Donc, dans ces pays-là, elle fait partie du paysage politique, historique et culturel.
Et elle a joué un rôle considérable dans la guerre d'indépendance des colonies anglaises d'Amérique, devenues les États-Unis. Donc, George Washington, on l'a cité, Benjamin Franklin, étaient des francs-maçons. Et si bien qu'on a pensé aussi, très vite, et c'est sans doute la théorie du complot la plus connue et la plus durable qui ait jamais eu contre elle, c'est qu'elle avait joué un rôle dans la Révolution française, qui a succédé à la Révolution américaine, en raison de la présence de certains francs-maçons, comme Philippe Égalité, qui en faisait partie. Écoutez cette archive de Radio Paris en 1942.
Je me trouve en ce moment dans l'immeuble du Grand Orient, rue Cadet à Paris, dans le bureau de M. Philippe Poisson, qui est le conservateur du Centre d'Histoire Contemporaine à la Bibliothèque Nationale. Monsieur le conservateur, que représente ce meuble vraiment impressionnant?
C'est celui de Louis-Philippe d'Orléans, qui est plus connu sous le nom de Philippe Égalité. Philippe Égalité avait été grand maître de l'ordre maçonnique de 1771 à 1793. À ce moment, bien qu'ayant voté la mort du roi à son cousin, il fut à son tour guillotiné. Ce personnage fameux évoque à nos yeux le résultat de l'anarchie intellectuelle de la franc-maçonnerie lorsqu'elle passe sur le plan des réalisations politiques.
Alors l'anarchie intellectuelle, c'est évidemment la Révolution française, dont selon cette archive du régime de Vichy, les francs-maçons auraient été les instigateurs. C'est une des théories du complot, je le disais, les plus connues, les plus anciennes, dont la franc-maçonnerie est fait l'objet. Elle a été, au fond, à l'œuvre. C'est elle qui a fait la Révolution française.
Alors évidemment, c'est une légende complète dont l'historiographie moderne a fait litière depuis très longtemps. Ouais. On sait aujourd'hui de façon certaine et documentée que la franc-maçonnerie en tant que corps n'a ni voulu, ni préparé, ni entretenu, ni déclenché la Révolution française, que parmi les francs-maçons, il y a eu des révolutionnaires et des contre-révolutionnaires, des guillotineurs et des guillotinés, et qu'au fond, les distinctions sociales qui ont séparé, en gros, l'aristocratie qui a émigré et la bourgeoisie qui voulait simplement, non pas la Révolution, mais participer aux affaires, que cette rupture, cette fracture sociale s'est opérée au sein de la franc-maçonnerie comme elle s'est opérée dans la société française. Néanmoins, il est vrai que dans les années qui ont suivi la Révolution française, dans les milieux de l'émigration, la théorie du complot est née. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que ces milieux-là cherchaient une explication rationnelle à quelque chose qui pour eux était incompréhensible, à savoir qu'une monarchie millénaire, la monarchie capétienne, s'était effondrée en quelques semaines. Cet événement-là était tellement ahurissant qu'il fallait trouver une cause cachée. Et c'est un jésuite qui d'ailleurs prétend lui-même avoir été franc-maçon,
l'abbé Baruel,
qui écrit aux alentours de 1799, parce que la rédaction s'est étalée sur plusieurs années, écrit un ouvrage qui va avoir un succès considérable dans les milieux de l'immigration.
Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme.
Voilà, ouais. Et dans lequel il explique, pour la première fois, alors il avait eu quelques prédécesseurs hein, qui avaient commencé à suggérer cette vérité-là, dans les 3 ou 4 ou 5 ans qui avaient précédé. Mais c'est lui qui, pour la première fois, en a fait un succès littéraire, et cette thèse a été adoptée tout au long du 19e siècle par les milieux contre-révolutionnaires.
Donc, elle aurait inspiré, dit-on, la Révolution française. Elle a aussi joué un rôle, vous le dites d'ailleurs, dans des révolutions ultérieures, 1830, 1848, et même pendant la Commune de Paris, et surtout sous la Troisième République, qui a été l'âge d'or, dites-vous, Roger Dachet, de la franc-maçonnerie française, présente dans tous les gouvernements, tous les parlements. Vous écrivez même, toutes les mesures votées par les parlements de la Troisième République avaient été portées par des ministres francs-maçons et même préparées dans des loges.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très important, je crois. Cette évolution-là est propre à la franc-maçonnerie française. C'est-à-dire que dans le monde anglo-saxon, en particulier, ça ne s'est absolument pas produit, puisqu'au contraire, on l'a dit tout à l'heure, la franc-maçonnerie dans ces pays fait partie de l'establishment. Elle n'est pas du tout révolutionnaire. Elle est même plutôt conservatrice. Soit dit par parenthèse, l'anti-maçonnisme en France, en tout cas au 20e, au 19e et au 20e, est plutôt de droite. En Angleterre, par exemple, l'antimaçonnisme est de gauche. C'est chez Jeremy Corbyn qu'on trouve les antimaçons et pas à droite. Alors, on referme la parenthèse. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qui s'est produit au cours du 19e siècle et qui ne s'est pas produit, par exemple, en Angleterre, c'est que la France a été, pendant toute cette période, sous l'égide de gouvernements autoritaires qui restreignaient les libertés politiques et d'ailleurs aussi les libertés religieuses. Ce qui fait que tous les gens qui cherchaient un minimum d'espace pour penser librement, ont trouvé une institution, la franc-maçonnerie, qui, par une espèce de miracle un peu incompréhensible, n'avait pas été abolie, n'avait pas été détruite par les gouvernements autoritaires. Et donc, un peu comme le Bernard l'ermite, en quelque sorte, ils sont venus habiter la coquille de la franc-maçonnerie. La grande transition s'opère après 1848, et après cela, la franc-maçonnerie en France est devenue le Parti républicain.
Et alors avec des résultats importants, puisque la plupart des grandes lois de la fin du 19e siècle, en 1881, la loi sur la liberté de la presse, la loi de Jules Ferry sur l'enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire, en 84 la loi sur le divorce, portée par Vidal Naquet, qui était franc-maçon, 1901, la loi sur la liberté d'association, 1905, la loi sur la séparation des églises et de l'État, qui codifie le principe de laïcité, tout ça, c'était Émile Combes à ce moment-là, tout ça, évidemment, est portée par des francs-maçons. Alors, donc, elle joue un rôle, même si ce n'est pas
sûr,
un complot.
Bien
elle joue
sûr,
un rôle,
alors, c'est évident. Bien sûr, évident. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant toute cette période, et notamment au début de la Troisième République, il n'y a pas encore de parti politique, au sens moderne du terme. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, Gambetta est le chef du Parti républicain, mais le Parti républicain n'existe pas. C'est un courant d'opinion. Et d'ailleurs, le premier parti politique, vraiment, qui sera fondé en 1920, le Parti radical et radical-socialiste, des loges maçonniques en sont membres fondatrices. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie a fonctionné comme un parti politique, parce qu'il n'y avait pas de parti politique en France à cette époque. Ça a été le premier parti politique qui ne portait pas ce nom.
Sous la Troisième République, donc âge d'or de la franc-maçonnerie, dites-vous, Roger Dachet, c'est aussi l'âge d'or de l'anti-maçonnisme, avec quelques affaires qui ont évidemment terni la réputation, c'est le moins qu'on puisse dire, de la franc-maçonnerie. Il y a eu l'affaire Dreyfus, dont on dit qu'il y avait les francs-maçons derrière. Et surtout, alors, une affaire qui a été vraiment, on peut dire, un complot, c'était l'affaire des Fiches en 1904.
Alors, l'affaire des Fiches, on peut dire que c'est une tache sur l'histoire de la franc-maçonnerie française.
Il faut rappeler ce que c'est d'abord.
Il faut la restituer dans son contexte. C'est-à-dire que nous sommes au tout début du XXe siècle. L'affaire Dreyfus vient à peine de se terminer et a montré que dans l'armée française, il y a un parti anti-républicain. Ouais. Et donc la franc-maçonnerie est inquiète.
Alors je rappelle brièvement, il s'agit en fait du ministre de la guerre, le général André, qui utilise la franc-maçonnerie pour établir des fiches sur les opinions politiques et l'appartenance religieuse des officiers de l'armée française, destinée à écarter de l'avancement les officiers catholiques ou royalistes au profit des républicains. Et c'est un vrai scandale.
Alors ça c'est un vrai scandale, parce que ça veut dire qu'une association privée, car la franc-maçonnerie n'est pas autre chose, se substitue à l'appareil d'État. d'État, voire pire, se met au service d'une partie de l'appareil d'État pour effectuer une délation, un fichage d'officiers de l'armée française. Donc, évidemment, quelle que soit l'opinion politique, et même d'ailleurs chez les francs-maçons, par exemple, Paul Doumer, qui sera plus tard président de la République et qui est franc-maçon, va démissionner à cause de ça, en disant « ça, je n'accepte pas que la franc-maçonnerie se conduise de cette manière, le scandale sera très important ».
Apogée de l'antimaçonnisme qui se poursuivra après la Première Guerre mondiale, pendant l'occupation, avec la loi du 13 août 1940, qui dissout les loges maçonniques, suivie un an plus tard d'une décision annoncée par le maréchal Pétain, le 12 août 1941.
Voici ce que j'ai décidé. Premièrement, l'activité des partis politiques et des groupements d'origine politique est suspendue jusqu'à nouvel ordre en zone libre. Deuxièmement, l'indemnité parlementaire est supprimée à dater du 30 septembre. Troisièmement, les premières sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires coupables de fausses déclarations en matière de sociétés secrètes ont été prises. Les titulaires des hauts grades maçonniques, dont une première liste vient d'être également publiée, ne pourront plus exercer aucune fonction publique.
C'était Pétain le 12 août 1941, interdisant l'accès aux fonctions publiques des francs-maçons, un an après avoir dissous les loges maçonniques, des décisions personnelles de Pétain, sans même que les Allemands le lui aient demandé. Un peu comme d'ailleurs pour les lois antisémites, Roger Daché.
Alors, ce qui est même frappant, c'est que les lois antimaçonniques ont précédé les lois antisémites. Et d'ailleurs, dans le désastre de l'été 40, ce qui est frappant, c'est que, compte tenu de l'état du pays, on publie les lois antimaçonniques comme une urgence absolue, comme si c'était ça qui allait sauver la France. Et là, le rôle personnel de Pétain est très important, parce qu'il était persuadé que à l'occasion de l'affaire des fiches, justement, sa carrière avait été retardée. Ouais. Et on a publié, il y a quelques années, Bénédicte Vergé-Chaignon a publié une très belle biographie de Pétain qui montre qu'en reprenant son dossier militaire, c'est faux. Ouais. Mais il en était lui-même persuadé, et donc il réglait un compte personnel.
La franc-maçonnerie est donc interdite, devient la cible d'une propagande anti-maçonnique illustrée par un film, Forces occultes, projeté pour la première fois à Paris le 9 mars 1942.
Voilà enfin de la pellicule bien employée. Dédiée aux Français, hélas trop nombreux qui ont la mémoire courte, le film n'a qu'un objet. Révéler au public ce que fut, dans la France d'avant-guerre, l'action de la franc-maçonnerie, lui montrer comment les loges ont délibérément, en pleine connaissance de cause, conduit le pays à la guerre souhaitée, voulue par Israël.
Mais vous tous, maçons, vous poussez à la guerre! Pour que ce pays soit gouverné par vos lois, par les juifs, et la maçonnerie surtout! Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse, un régime ignoble, une république pourrie!
Donc, film de propagande, Forces occultes, diffusé en 42, enfin, qui passe dans les salles en 42 pendant l'occupation, et où on associe le complot, entre guillemets, le pseudo-complot des maçons et des juifs. Là, c'est le complot judéo-maçonnique.
Alors, l'association de l'antimaçonnisme et de l'antisémitisme avait commencé à la fin du 19e siècle. Mais il n'avait jamais connu autant d'éclat que sous le gouvernement de Vichy, où ça va permettre au milieu de l'extrême droite française qui sont parvenus au pouvoir à l'occasion de la défaite française, si j'ose dire, de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire de mêler leurs deux obsessions, le complot maçonnique et ce qu'on appelle à l'époque la question juive. Alors, pour ça, évidemment, ils utilisent le fait que dans les rituels et les symboles de la maçonnerie, on fait beaucoup référence à la Bible et à l'Ancien Testament, donc c'est facile de dire. Et puis, un autre élément qu'il faut mentionner, c'est que au cours du 19e siècle, il y avait une légère surreprésentation des juifs dans la franc-maçonnerie, parce que justement, la franc-maçonnerie avait abandonné toute espèce de barrière religieuse pour opérer son recrutement.
Et puis, pendant la guerre, c'est un moyen commode aussi de se défausser de la responsabilité de la défaite de 40 sur les boucs émissaires que sont les juifs et les maçons. Alors, les juifs ont beaucoup plus souffert de persécutions sous le régime de Vichy que les maçons, mais il y en a eu quand même beaucoup qui ont été déportés, qui ont participé aussi à des actions de résistance. Il y en a eu beaucoup du côté de Pétain, d'ailleurs. Le réalisateur du film que l'on vient d'entendre, Forces occultes, était un ancien maçon.
Bien sûr, il y a d'ailleurs eu également des maçons dans le gouvernement du maréchal Pétain. Et comme il y avait des lois qui interdisaient aux francs-maçons ou aux anciens francs-maçons de servir l'État, il a fallu faire des exceptions puisqu'il y avait de hauts fonctionnaires francs-maçons dans le gouvernement du maréchal Pétain.
Marcel Pérouton, qui était ministre de l'Intérieur de Pétain, quand même, c'est assez extraordinaire.
Exactement, ce n'est pas rien.
Alors, après la guerre, quand même, bon, évidemment, ces persécutions disparaissent. La franc-maçonnerie se reconstitue, en France d'ailleurs, où elle est, elle représente, je crois, à peu près aujourd'hui 100, 150 000 membres. Et également, elle est beaucoup plus importante au Royaume-Uni, et surtout aux États-Unis, où il serait 1,5 million, je crois.
Oui, alors, la franc-maçonnerie, encore une fois, la franc-maçonnerie française, d'une part, la franc-maçonnerie anglo-saxonne, d'autre part, sont sur des positions intellectuelles aujourd'hui et depuis longtemps, assez différente. La franc-maçonnerie anglo-saxonne n'est absolument pas révolutionnaire, n'est absolument pas politisée, et elle insiste beaucoup sur la dimension caritative, de développement personnel et caritative, à la différence d'une partie majoritaire, mais pas exclusive, de la maçonnerie française, parce qu'une autre caractéristique de la franc-maçonnerie française, c'est sa très grande diversité. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'après la libération, il a fallu que la franc-maçonnerie, qui est chaos debout, après la persécution, se reconstitue. Et ça a mis une bonne dizaine d'années. Pendant une bonne dizaine d'années, le recrutement a été difficile. Et elle a dû faire face, jusqu'à nos jours, à une nouvelle forme de l'anti-maçonnisme. C'est-à-dire qu'historiquement, il y a eu trois vagues. Une vague religieuse dès le XVIIIe siècle, une vague politique au XIXe, et puis ces deux vagues subsistent, mais sont un peu apaisées aujourd'hui. Et puis il y a eu une troisième vague, qui au fond est celle de l'après-guerre, qui est ce que j'appellerais moi l'anti-maçonnisme sociétal, avec premièrement les affaires, on dit que les francs-maçonneries sont des voyous, les francs-maçons sont des voyous, et puis l'antisémitisme larvé, qui fait qu'on continue à se méfier des francs-maçons, mais sans trop savoir qui ils sont.
Écoutez en tout cas le juge Alphen, au micro de France Inter, le 13 juin 2001, réagir à une des nombreuses affaires, justement, qui ont défrayé la chronique depuis la guerre.
À Nice, le doyen des juges d'instruction est en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction afin d'obtenir des renseignements pour une loge maçonnique.
Effectivement, on retrouve des francs-maçons dans un bon nombre d'affaires politico-financières. En ce qui concerne le fait que certains juges appartiennent à certaines loges, effectivement, je trouve ça absolument anormal.
Ce sont des systèmes qui s'auto-protègent ?
Absolument, oui. C'est le but quand même de la franc-maçonnerie. Au départ, c'était la justice pour tous et c'est devenu la justice pour les frères ou l'injustice pour les frères. Il y a un système d'entraide qui est parallèle à la société officielle et je pense que c'est aussi très dangereux pour la démocratie. Il est évident qu'un juge qui a un dossier concernant un de ses frères ne va pas juger de la même façon que si c'était quelqu'un qu'il ne connaissait pas du tout.
Un système qui s'auto-protège, qu'est-ce que vous en pensez?
Les déclarations à l'époque du juge Alphen sont scandaleuses, parce qu'elles ne correspondent absolument pas à la réalité profonde de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie établit entre des gens des relations particulières. Ça s'appelle un réseau, mais un réseau, ça peut être quelque chose de tout à fait convenable. Et le réseau des anciens élèves des grandes écoles n'est pas un réseau de voyous, simplement un réseau des individus peuvent éventuellement le dévoyer. Mais la franc-maçonnerie condamne tout cela. Alors ce qui s'est passé, c'est que pendant une certaine époque, quand on voyait des comportements de cette nature, la franc-maçonnerie était tellement honteuse qu'elle mettait un peu la poussière sous le tapis et qu'on écrasait les coups, si j'ose m'exprimer ainsi. Et un jour, Alain Boer, qui a été plus de 20 ans grand maître du Grand Orient de France, a dit « Nous allons substituer au recyclage des ordures, le tri sélectif des déchets. » C'est-à-dire qu'on a déclaré, il y a des gens qui sont mal conduits, on les a foutus dehors. Mais présenter la franc-maçonnerie, qu'un juge de la République présente la franc-maçonnerie comme une association qui est un danger pour la démocratie, d'abord, il n'a pas lu l'histoire de la franc-maçonnerie, et ensuite, et surtout, ça ne correspond pas à la réalité vécue par 150 000 personnes, dont l'immense majorité sont des gens parfaitement honnêtes.
Merci Roger Daché, vous êtes l'auteur, justement pour en savoir plus, et pour lire les choses sur la franc-maçonnerie. Vous êtes l'auteur de l'Encyclopédie des francs-maçons et des francs-maçons, coécrit avec Alain Boer et publié en octobre dernier aux éditions Grund, mais aussi Les francs-maçons en 100 questions, publié en 2021 chez Talendier, et un Que sais-je sur l'histoire de la franc-maçonnerie française. C'était Les Infox de l'Histoire, en partenariat avec la Fondation Descartes, un espace de recherche sur les questions d'information et de désinformation, à la technique Tahar Bouflika, documentation et archives sonores Juliette Marcaillou, une réalisation de Vanessa Nadjar.
Un podcast de Patrice Gélinet.